Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. On a reçu hier à la rédac les nouveaux MacBook Pro et les Mac Mini avec leur puce M2 qui vont bien. Et évidemment, on va revenir sur ces machines dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire un point plus global sur les puces d'Apple. Elles sont très puissantes et tout évidemment, mais il leur manque aussi pas mal de choses importantes. Dans la deuxième partie de l'émission, Pierre va justement nous détailler tout ça. En attendant, c'est le Flash Info du mercredi 25 janvier. À la surprise générale, Apple a donc lancé un nouveau gros HomePod il y a quelques jours, 2 ans après avoir arrêté la production et la vente de la première génération. La nouvelle enceinte connectée ressemble beaucoup au modèle précédent, dans son design évidemment et dans son prix plutôt élevé, mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur, tout a changé. Apple a fait des économies sur les composants, on verra dans nos tests comment ça rendra au niveau sonore. On peut se demander pourquoi Apple a décidé d'arrêter le HomePod de première génération alors qu'il aurait été peut-être plus simple de continuer à la vendre en attendant le modèle de deuxième génération. Des échos qu'on a pu entendre ici et là, il semble que la première version de l'enceinte présente au bout d'un an ou deux des petits soucis techniques qui nécessitent un tour chez le réparateur. Ça peut être des problèmes logiciels, comme par exemple une mise à jour d'iOS qui ne passe pas, ou des soucis matériels comme un composant qui lâche. Le problème, c'est que le démontage du HomePod n'est pas évident, sans oublier que la conception interne du HomePod est très complexe. C'est peut-être suite à ces retours que chez Apple, on s'est dit que ce n'était peut-être pas la peine de poursuivre l'aventure du premier HomePod, et ça a donné du temps pour revoir entièrement la machine. Pour les utilisateurs, malheureusement, ça veut dire que la réparation peut coûter assez cher. Et c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger avec le temps. Un autre appareil d'Apple a peut-être la tête sur le bio, ce sont les AirPods Max, qu'il est de plus en plus difficile d'acheter tout simplement. Alors sur l'Apple Store, il est toujours possible de passer commande et on est livré sous 2 à 3 semaines, ce qui est déjà assez long pour un produit sorti il y a plus de 2 ans. Chez les autres revendeurs, l'offre de casque neuf n'est plus du tout au rendez-vous nulle part. Le pire, c'est qu'on ne peut pas trouver des AirPods Max à un prix plus normal que les 629€ demandés par Apple. À une époque, on pouvait encore s'offrir la Rolls de l'audio autour de 400€ en neuf, mais ces jours heureux sont terminés. Alors, est-ce que ça veut dire que Apple prépare une nouvelle version? C'est toujours difficile à dire, il y a des rumeurs qui parlent de nouveaux coloris, d'autres d'une puce H2 au lieu de la puce H1, mais en fait, on n'en sait vraiment rien. Le mieux, c'est encore d'attendre de voir si Apple refait le plein dans ses rayons. Les utilisateurs de Windows sont bien contents, pensez donc, ça ne leur arrive pas si souvent. Ils peuvent enfin troquer leur vieille iTunes pour une application Apple Music toute neuve. Seul problème, Apple n'a pas terminé le développement du logiciel. D'ailleurs, c'est toujours une preview et il manque encore pas mal de fonctions. Tenez, il est impossible de lire et d'encoder un CD avec Apple Music. Ok, plus personne n'utilise de CD ni de support physique, mais quand même, c'est ballot pour un logiciel de musique. Pour le reste, Apple Music sur Windows fait le boulot plutôt correctement. Il permet par exemple de gérer une bibliothèque de MP3 sans problème. Le support des CD devrait quand même, en toute logique, débouler dans une prochaine mise à jour. Le lancement des MacBook Pro et des Mac Mini avec leur puce M2 toute neuve confirme tout le bien qu'on pense du silicium Apple. Le processeur de ces puces est vraiment très performant et le GPU intégré se défend plutôt pas mal. Mais tout n'est pas parfait, loin de là. Avec Pierre, on va justement parler de ce qui ne va pas avec Apple Silicon. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
On a écrit et on a dit beaucoup de bien des puces Apple et les M2 Pro et M2 Max ont confirmé les très bonnes dispositions du constructeur dans ce domaine. Mais en grattant un peu derrière le vernis, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne font pas comme on le voudrait. Et c'est le cas. À commencer par un truc tout bête, il n'est pas possible de choisir un processeur avec beaucoup de cœur et un GPU avec pas beaucoup de cœur et inversement. Dans certains cas, ça pourrait être pourtant intéressant.
Bah oui, alors en fait le truc c'est que chez Apple, c'est très figé. Contrairement à la concurrence, et ça simplifie les gammes. Parce que voilà, la gamme actuelle, c'est M2, M2 Pro, M2 Max, éventuellement un jour M2 Ultra. Si on prend des puces Intel, je vous défie de, si je vous donne 2 processeurs, de savoir lequel des deux est le plus puissant. Par exemple, si je vous donne 2 noms au hasard, même avec des i7 ou des i5. Mais ça n'empêche que ce serait pas mal d'avoir un peu de choix quand même. Ne serait-ce que, par exemple, on peut avoir besoin d'une bonne puissance processeur, donc avec, par exemple, 8 ou 10 cœurs, sans avoir besoin d'un GPU beaucoup plus rapide, ce qu'Apple ne permet pas. Ou le contraire, on peut avoir besoin d'une grosse puissance graphique et se contenter de 4 cœurs. Ici, on n'a pas le choix.
Dans le même genre, il faut bien choisir son Mac selon qu'on utilise deux ou trois écrans externes.
Ah ouais, alors ça, c'est vraiment une limitation qui est assez étonnante parce que chez Intel, il faut remonter par exemple au MacBook Air de 2011 pour avoir un Mac qui ne gère qu'un seul écran externe. Ouais. Et alors qu'en fait, voilà, les Mac M1 et M2, ils se limitent à deux écrans. Alors dans le Mac Mini, c'est pas très grave parce que voilà, deux écrans sur son bureau, c'est bien et on peut les brancher directement sur un Mac Mini. Mais sur un MacBook Air, quelqu'un qui utilise un MacBook Air pour du travail, bah, il peut pas arriver sur son bureau où il a deux écrans et brancher le Mac. Ça marche pas. Il faut soit une carte graphique USB, soit changer de Mac.
Niveau graphique, il y a un absent qui commence à faire pas mal de bruit. Paradoxalement, c'est le Ray Tracing qui n'est pas du tout dispo, que ce soit sur Mac ou sur les appareils iOS. Et la concurrence, eh ben là, elle creuse l'écart.
Ouais, en fait, le Ray Tracing, c'est ce qu'on appelle du lancer de rayon en bon français. Une technologie qui permet d'avoir de beaux reflets sur les vitres et ce genre de choses dans les jeux vidéo. C'est très utilisé par exemple dans les films genre les Pixar, ils utilisent ça depuis des années et en fait, c'est apparu dans les cartes graphiques de PC chez Nvidia avec les RTX 2000 en 2018. Depuis en fait toutes les cartes graphiques qui sortent, faut vraiment voilà, le ray tracing c'est important, il faut que ce soit là, Intel en a mis, AMD en a mis, Nvidia continue, et chez Apple il n'y en a pas. Alors il n'y a pas d'accélération matérielle, plus exactement. Donc, on peut en faire en métal en trichant un peu, mais la puce graphique ne l'accélère pas. Alors, il n'y en a pas dans le M2, parce que le M2 dérive de la 15. Il y a des rumeurs qui indiquent que la 16 aurait dû avoir du ray tracing, mais que ça ne fonctionne pas. D'une façon ou d'une autre, cette partie-là de la puce n'est pas fonctionnelle, ou Apple a décidé de le désactiver pour une raison ou pour une autre. Mais même l'iPhone 14 Pro donc, n'a pas de ray tracing.
Les puces d'Apple, elles sont là pour marquer à quel point le constructeur entend être maître de son destin, mais malheureusement, Apple ne peut pas faire tout d'un coup. Ça explique l'absence de modem 5G pour les Mac, par exemple. Et il y a aussi l'adoption plus lente qu'ailleurs des nouvelles technologies sans fil. Alors, je pense au Wi-Fi 6E, qui fait à peine son arrivée, alors qu'on attend d'Apple d'être à la pointe dans tous les domaines, surtout quand on voit les prix pratiqués.
Ouais, alors ça, je pense que surtout, ils ont décidé de faire les choses au cas par cas, et que voilà, le processeur et la carte graphique, c'est plus important que la partie Wi-Fi. Mais en attendant, alors pour tout ce qui est Wi-Fi et Bluetooth, Apple dépend de ce que Broadcom fait depuis des années. Alors, ils étaient déjà là du genre des cartes AirPort, si vous vous en souvenez. Le problème, c'est que Broadcom n'est pas la société qui sort les nouveautés le plus rapidement, et le leader dans les PC par exemple, c'est Intel. Donc si vous achetez un PC, il aura peut-être du Wi-Fi 6E, ça fait un an qu'on peut en faire en France, ça a été permis fin 2021, alors que dans les Mac ça commence seulement à arriver. Pour les modems, c'est un peu la même chose. Qualcomm, c'est un fabricant de modems au départ, donc ils intègrent des modems 5G dans les puces Snapdragon depuis un moment, c'est directement dedans. Et comme les modems Intel qu'Apple a racheté, ils n'arrivent pas à en faire quelque chose pour le moment. Dans les iPhones, on a un modem qui est séparé sur la carte mère. Dans les iPads, c'est une option qui est assez chère. Et dans les Mac, on n'a pas l'option. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que dans les PC Windows, il y a des PC à 300€ avec un modem 4G Qualcomm dedans, quoi.
Alors, il y a aussi le problème des composants qu'on peut remplacer ou qu'on ne peut pas remplacer. Les Surface Pro permettent, par exemple, de changer très facilement un SSD, mais ça fait sûrement partie aussi d'une stratégie aussi bien technique que marketing de la part d'Apple.
Oui, alors, la RAM, on ne peut pas changer dans la majorité des PC portables, en tout cas des ultra-portables. Le SSD, c'est quand même plutôt généralisé, même dans des choses très intégrées justement comme de Surface Pro. Apple en fait ils ont décidé d'intégrer le contrôleur du SSD, donc la partie qui va gérer la mémoire, c'est directement dans la puce M. Donc on peut pas rajouter simplement un SSD en format M.2 directement, et c'est un peu dommage parce que du coup l'option d'Apple elle est chère. Et comme tu le dis, je pense que ça les arrange bien de vendre le stockage avec une très belle marche.
Alors, on peut finir sur les soucis de port USB et de Thunderbolt qui sont moins rapides et moins performants qu'ailleurs dans le monde de PC. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Surtout, comment est-ce que Apple peut régler ça?
Alors, question performance, on est à peu près en 10 et 15% plus lent que sur un PC. Et ce qui est un peu embêtant, en fait, c'est surtout on est en 10 et 15% plus lent que sur les Mac Intel qui sont vieux.
Oui.
La raison principale, c'est qu'Apple n'a pas développé son propre contrôleur USB. De ce qu'on a eu grâce aux gens qui s'occupent de créer la version, de faire une version de Linux pour les puces M1, la partie USB, elle vient de chez Asmedia, c'est un fournisseur de puces. Apple utilise visiblement ça sous licence, comme AMD. Et le problème, c'est que le contrôleur Asmedia, bah, il est moins rapide que ceux d'Intel. Voilà. C'est la même chose avec PC, hein, donc si on prend une puce AMD, c'est un peu moins rapide. Pour cette raison, la solution pour Apple pour régler ça, c'est de faire une puce eux-mêmes plus rapide et de l'intégrer. Pour le Thunderbolt, la différence est un peu plus faible. Ça peut venir de la façon dont ils gèrent le PCI Express en interne. Mais ils utilisent un contrôleur Apple plutôt qu'un contrôleur Intel.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. Bah, il ne faut pas oublier quand même que les puces d'Apple ont plein de qualités par ailleurs. Et il ne faut pas non plus oublier que sur certains points, eh ben, ça coince encore. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.